Théodore de Banville, très femme, bête, bête, bête. Il m'a appelée bête. Oui, c'est ainsi, disait Madame Constance Payès, femme de l'illustre savant, à son ami Arsène Chassignol. Quand j'ai épousé ce misérable, il y a 13 ans de cela, j'avais 17 ans. Et il en avait 22. Eh bien, ma chérie, il y a 13 ans que je l'exècre. Ce qui tout d'abord me l'avait fait prendre en haine, c'était son absolue et irritante perfection en toute chose, qui me poursuit comme la plus cruelle ironie, sur tout point quelconque. Il m'a toujours été impossible de le prendre en faute. Il n'est jamais fatigué, il ne se plaint jamais de ses travaux. Il est toujours gai, spirituel, reposé, comme s'il sortait du bain. Marié et amant irréprochable. Il peut quitter le labeur le plus attachant pour m'emmener au bal, à la comédie, où je veux, pour m'embrasser, pour m'amuser comme une enfant, pour causer chiffon, et il en cause mieux que moi. Il fait tout mieux que moi. Il m'a tout pris. J'étais joli, je m'en souviens comme un pastel de l'amour. Mais aujourd'hui, voilà que j'ai 30 ans. Ma beauté blonde se fane, mes tendres se fatiguent. Tandis que la tête de ce géant, Joseph Payès, prend chaque jour, sous son épaisse chevelure, une caractère de plus en plus magnifique et grandiose. Quand nous allons dans le monde, il s'efface, comme partout, il me ménage des triomphes. Il dispose tout pour me faire briller. Et cependant, c'est lui qu'on admire. S'il dit oui ou non, on se pâme d'admiration. Et moi, j'ai beau réciter avec des mines charmantes les choses vraiment spirituelles que je me suis apprises à peine si on daigne sourire par complaisance. À la maison, c'est encore pis. Naturellement, j'ai besoin de me poser en victime, de me prendre comme toutes les femmes, de me plaindre. Et il ne m'en fournit jamais le prétexte. Joseph Payès, qui n'est pas riche, oh, il s'en faut, eh bien, il me donne toujours pour mon ménage et pour ma toilette tout l'argent dont j'ai besoin. Cependant, si je lui en redemande au bout de 3 jours, il ne me fait aucune observation et il m'en donne de nouveau. Il se tue 3 fois sa lourde de travail. Il satisfait ses avides horaires. Il m'apporte des présents, des joyaux, tout ce dont une femme a besoin et a envie, des choses inutiles. Je cherche les moyens de l'exaspérer, mais je n'en trouve pas. Dernièrement, quand il se livrait à des expériences si curieuses qui passionnent l'Europe. Je l'ai prié de me prêter son cabinet pour ranger des pots de confiture. Il a tout de suite accepté. Il a transporté ailleurs ces machines qui coûtent si cher et a paru trouver cela juste. Alors j'ai cherché un autre sujet de querelle. Et tous les souverains qui m'ont envoyé les plaques de leurs ordres, la plupart ont en diamant. Alors je lui ai dit avec âpreté combien je trouvais ce rat ridicule qu'il eût à lui, pour n'en rien faire du tout, tant de pierreries. Alors, il a pris les croix, les plaques, il en avait plein un tiroir, il a tout brisé, sans effort, entre ses doigts, et il a fait ruisseler dans mon petit tablier le tas de diamants. N'y a-t-il pas là de quoi se casser la tête, comme entre les murailles? Mais le vrai motif de ma haine, c'est que je ne pardonnerai jamais à Joseph, c'est qu'il m'a volé mon fils. Il en a fait un être qui ne me ressemble pas du tout. Il n'est pas de ma race. J'aurais voulu lui donner un joli nom poétique et l'appeler Bernard. Je rêvais d'un enfant joli, frisé, adonisé, ayant des prix et des couronnes au collège, et jouant des valses au piano. Oh, ma chérie, dès que Bernard a pu marcher, Monsieur Paillès a fait ériger dans notre petit jardin une gymnastique. Et il a fait de mon fils un Hercule qui soulève des haltères et un clown qui s'enfonce de sorte de trapèze en trapèze à 12 ans. Il pourrait gagner sa vie au cirque. Et Joseph ne l'a pas mis au lycée. Il fait son éducation lui-même. Et le croirais-tu? Il a appris à lire dans le grec. C'est bien que mon enfant a su tout de suite une langue que je ne connais pas, que je ne saurai jamais. Son père lui a aussi enseigner la musique à fond. Et Bernard, peut-être content, et il peut lire couramment une partition de Mozart et de Berlioz, mais je n'ai jamais eu la satisfaction de l'entendre jouer d'un instrument. Joseph prétend que c'est inutile. Enfin, ce père a fait de mon enfant un petit sauvage qui pourrait parler latin. C'est à fond la poésie et les mathématiques. Elle n'aura pas un moment L'agrément, autre. Ce n'est pas mon fils. Je ne sais pas si je l'aime encore. Quant à Joseph Faliès, je te l'ai dit, je le hais. Je le hais d'autant plus qu'il ne me plaît pas, qu'il me déplaît pas, oh, loin de là, et qu'il n'invoque jamais à son bénéfice le calendrier des vieillards. Par lui, comme pour le bon pirate de Bocasse, il n'y a jamais de fête, et il est bon mari tous les jours. Ainsi, nul moyen de triompher, d'être la plus forte et d'avoir raison de mon chef, puisqu'il me donne toujours raison. Arrivé au dernier degré de la furie, je me souviens du moins. Je veux qu'une femme a toujours une vengeance prête. Et je me décidai à créer l'irréparable. Et je résolus de tromper Joseph avec le meilleur de ses amis, qui est son collègue, le Geoffroy. Par un hasard que j'avais adroitement combiné, cet autre savant me trouva dans ma chambre demi-nu. Il s'était jeté à genoux et déjà saisissait le bas de ma robe, de ma chemise, quand soudain Joseph parut. Il saisit le bourgeois, l'enleva comme une plume et le porta hors sur l'escalier, et après quoi, venant à moi d'un pas rapide, il me prit dans ses bras et tout de suite me prouva par des arguments irrésistibles qu'il n'avait pas besoin d'un collègue en cette affaire. Mais je ne me tins pas pour battu. Ne pouvant être une femme triomphante, je voulais être à tout prix une femme infidèle. Et je jetais les yeux sur Camille de Bergoche, un séducteur de profession dont les bonnes fortunes innombrables sont un des curiosités parisiennes. Mais comme les banquières et les grandes dames l'ont si fort gâté en se jetant à sa tête sans préambule, je voulais faire exception dans ce troupeau et j'imposais à mon nouvel ami une longue adoration platonique, à laquelle d'ailleurs il se résigna, en faisant sans doute des restrictions mentales. Et un soir d'été, nous nous promenions sentimentalement dans un quartier perdu, sur le quai d'Anjou, dans l'île Saint-Louis, et Camille me courtisait comme j'aime à être courtisé, en me comparant à des étoiles et à des fleurs, et en me disant qu'il avait plus peur de toucher le bout de mon gant que d'affronter une armée. Eh bien, Arsène, cette fois comme l'autre, Joseph parut. Je ne sais comment, jaillit d'un pavé, comme l'autre. Je regardais derrière moi, et géant comme il est, je l'aurais vu comme l'obélisque. Cependant, il était là, et en moins d'une seconde, Camille de Perroche fut enlevé, jeté dans un fiacre qui passait, et M. Paillès donna au cocher l'adresse de séducteur avec un louis qui lui fit partir au galop, le pauvre équipage. Ma chère Arsène, ma dernière passion a eu pour objet ce joli pianiste, Silver Fanet, si blond, si rose, qui semble sortir d'une boîte et qui passe en habileté tout ce qu'on a vu jadis. Je lui avais déjà donné une fleur qu'il gardait dans son portefeuille et qu'il baisait en secret avant de commencer ses exercices de virtuose. Ayant, à une soirée chez la comtesse d'Everly, je buvais des yeux, sachant qu'il jouait pour moi, et lui, fatal, extasié, avait l'air de méditer un crime. Il exécutait avec une adresse démoniaque des difficultés à faire pâlir un équilibriste. Le piano, dompté, vaincu, haletant, consterné, hurlait de douleur, les touches tordues, frémissantes, s'efforçait de s'évader, de s'envoler, de s'enfuir pour échapper au martyr. Les dièses pris dans la danse de Saint-Guy bousculaient, bruissaient comme des furies furieuses, et les auditeurs croyaient entendre dans leur cerveau des notes désordonnées, monter et descendre des nains sur des écholes de cristal au milieu d'un roulement de tambour d'airain. Les gammes couraient éperdues comme des ménades oubliées, frappées au cœur d'une plaie saignante. Et lorsque Fanet se leva, il était ivre d'orgueil. Il semblait marcher sur des étoiles astres, et les spectateurs applaudissaient, stupéfaits. Mais l'étonnement de Duras ne devait pas s'arrêter là. Chaque chose inouïe et impossible à prévoir arriva. Mon mari, Joseph Paillès, s'assit au piano, se mit à jouer, reprit parodia le thème même de Fanet, et du premier coup exagéra, décupla, poussa à leur dernière extrémité, à leur dernier degré, la difficulté dont le virtuose nous avait donné le régal, et qui, alors, parurent être des niaiseries. Oh, ma chère Arsène, je devins rouge jusque dans mes yeux. La chose avait duré 1 minute et demie. Mais le pianiste Sylvain Janet était jugé ainsi définitivement qu'il pourrait être dans la vallée de Josaphat. Il se déroba, honteux, rasant les murs, comme un enfant qui emporte son ballon crevé. Et toujours, entendant l'inimitable dans ses oreilles, le poignant charivari des petits éclats de rire. En rentrant chez nous, j'étais décidé à flétrir mon mari par une de ces insultes que rien n'effacera jamais. J'aurais voulu lui crier le mot « lâche » en plein visage, mais quel moyen d'appeler « lâche » un homme qui fait ménage avec la mort, qui se jette à l'eau, non seulement pour en retirer des enfants et des femmes, mais aussi même pour sauver des chiens, noyés. Joseph Paillès arrache leur proie aux incendies. Arrête les chevaux emportés et en fait des chevaux de marbre. Il se seulement qu'il a été médecin pour aller s'asseoir près du lit des misérables atteints d'une maladie contagieuse. Et il les soigne, les console, vit avec eux, respire leur haleine. Pourtant, j'aurais bien voulu l'appeler lâche. Du moins, je vomis sur lui au hasard un torrent d'injures dans lesquelles les mots grossiers sortaient de ma bouche avec plaisir, comme des crapauds d'une fleur de corail. Mais dans tout ce tumulte, un de mes seins était sorti de ma robe, montrant son bout rose, et Joseph se mit à le baiser tendrement. « Ah ! M'écriai-je, ivre de rage. C'est donc à dire que mes paroles ne signifient rien. Je suis une créature inconsciente, une bête de somme, une machine à plaisir. Mais je vous forcerai bien, moi, à me prendre au sérieux. » Je saisis alors un petit couteau de chirurgie qui se trouvait là sur une table et m'élançant sur mon mari, je le frappais de toutes mes forces. Je l'avais atteint au bras seulement. Alors il ôta son habit et avec une tranquille dextérité se mit à penser à bander sa blessure. Et cependant, la vue de son sang ne me désarmait pas. Je hurlais. « À présent, vous serez content. Vous allez pouvoir vous donner le plaisir de dénoncer, de me dénoncer, de me faire condamner à mort. Et vous verrez ma tête tomber sous le couperet. » Hélas, Arsène. ce méchant homme m'enveloppa tout entière de son regard placide et arrêtant sur moi ses grands yeux où brillaient des noires fournaises. « Ma bonne femme, dit-il en souriant, mais vous êtes une bête !»